Je n'ai pas eu une jeunesse facile. D'abord le divorce de mes parents, déménagement du sud du Portugal vers Lisbonne, où j'ai passé 15 ans de mon existence. J'ai connu la misère, heureusement de courte durée. J'avais 5 ou 6 ans, mon grand-père mettait des pièges à moineaux dans les champs pour pouvoir nous nourrir. Misère provoquée par un état dictateur suite aux 40 ans de gouvernement de Salazar. Malgré tout, bien entouré par mes grands-parents, qui m'ont élevé dans l'amour et les bons principes, mon grand-père était un grand admirateur de la nature. Ancien pêcheur, jadis, il avait possédé 2 bateaux de pêche. Il avait gardé ce sens qui consiste à observer le temps, les nuages, la direction du vent, comme tout bon pêcheur. Et tant de fois, je l'entendais dire d'un air plus que rêveur, admiratif, je dirais même contemplatif. Il me disait, j'étais alors très jeune, il y a quelque chose là-haut, au-dessus de nous, qui gouverne notre monde, un puissant créateur, on l'appelle Dieu, mais il est tellement loin qu'on l'a jamais vu, on ne peut pas savoir qui c'est. Dans son ignorance des choses de Dieu, il y avait déjà dans son cœur comme une louange, mais à qui? C'est un peu avec cet état d'esprit que j'ai évolué. À l'âge de 17 ans, je me sentais bien dans ma peau. Je travaillais dans l'entreprise de mon oncle, dans l'entreprise où mon oncle était associé. Je n'avais pas envie d'aventure. D'ailleurs, il me manquait le courage et l'initiative pour pouvoir m'embarquer dans une galère quelconque. Ma mère, par contre, assez téméraire et avide d'aventure, avait tenté sa chance émigrant pour la France en 1966. Pendant ses courts séjours au Portugal, pour les vacances, elle a réussi à convaincre ma sœur, un an plus jeune que moi, que la France était son avenir, et ainsi ma frangine, qui n'attendait plus que ça, s'est décidée à partir. Je suis resté seul avec mes grands-parents, et la France a commencé à devenir un sujet de réflexion. Mais je me sentais bien dans ma situation. J'avais mon petit salaire, pas de charge de famille. Tout ce que je demandais, c'était jouir de la vie, avec toute l'insouciance de mon jeune âge, jusqu'au jour où, par jalousie et rivalité, plusieurs de mes collègues m'ont créé des ennuis, ce qui à la longue m'a profondément irrité, et j'ai quitté mon emploi. Je me suis trouvé au chômage. Mes rêves se sont évanouis, rêves fondés sur les promesses de mon oncle qui avait un but pour mon avenir. 18 mois se sont écoulés sans que je trouve un nouveau travail. Et ma mère, qui ne voyait autre chose que de m'emmener en France, a fini par me convaincre. Et ainsi, j'ai quitté mon pays en novembre 1969. Et tellement révolté que je suis revenu que 9 ans plus tard. La France, pays de liberté, d'autant plus qu'on a commencé à sentir la différence suite aux manifs de 68. La mentalité des Français m'étonnait, leur façon de vivre, l'ambiance, le paysage, la cuisine, la facilité d'acquérir ce qui nous sautait aux yeux. Bref, tout était devenu plus facile à vivre. Et c'est à Niort, dans le département des Deux-Sèvres, après un court séjour à Paris, que nous nous sommes installés, où j'ai vécu pendant 7 ans et où j'ai fait une expérience qui a changé ma vie. Avant mon arrivée à Paris, ma mère avait entré en contact avec une église évangélique. Un jour, elle m'annonce la nouvelle en me disant, tu sais, ces chrétiens imposent les mains aux malades comme autant des apôtres. Il manquait plus que ça, pensais-je. Et j'ai essayé de lui faire comprendre, et même de la convaincre, que ces choses-là, c'était pas pour moi. Ma conception des choses, c'était que Dieu était là-haut, moi j'étais en bas, et les apôtres avec le Père Noël, c'était de l'histoire ancienne. Point barre. Mais heureusement, maman était tenace, et un jour, à force d'insister, je me suis dit, d'accord, j'y vais pour lui faire plaisir, comme ça elle me fichera la paix. Mais au fait, si elle insistait tant, c'est parce que toute ma jeunesse, j'avais souffert d'attaques épileptiques. Et pour cause, la dernière attaque s'est passée dans le train pendant notre voyage Lisbonne-Paris, où ma mère a été obligée d'arrêter le train en pleine campagne espagnole, dans une panique générale. Quand je me suis réveillé, je ne savais pas où j'étais, mais il y avait foule autour de nous. Bref, dans cette petite église, je me suis trouvé au milieu de trois messieurs assez âgés, qui me bousculait la tête en priant au nom de Jésus. Une fois l'office terminé, et bien content de sortir de là, je me suis dit, je ne retournerai plus dans ce truc morbide et rêveur. C'est sûr que je ne suis plus retourné. Mais ce qui est plus sûr encore, c'est que j'avais été guéri sans le savoir. Car 40 ans plus tard, je peux dire en vérité que je n'ai plus une seule attaque. Gloire à Dieu. En arrivant à Niort, j'ai tout de suite trouvé du travail et des amis. La vie s'ouvrait devant moi et j'ai fini par apprécier plus la France que mon pays d'origine. Je sortais tous les soirs, cherchant comme tout le monde à jouir de la vie, sans me soucier des discours religieux qui me prodiguaient ma frangine et ma mère. Tous mes proches s'étaient convertis pratiquement en même temps. La grâce de Dieu avait touché ma mère, ma sœur, ma grand-mère et mon grand-père, et plus tard même, des tantes et des cousines se sont converties au Seigneur. Je n'ai pas vu grand changement dans leur comportement, car ma motivation était ailleurs. Je vivais sur une autre planète, dans un monde de vanité, de perversion, d'aveuglement et de misère. Quoique je me croyais riche, libre et heureux. 3 ou 4 ans plus tard, je me suis pris d'amitié avec un couple de chrétiens, des connaissances de ma frangine, dont le mari a su trouver la faille et briser mon insouciance. Et là, j'ai commencé à réaliser que mon bonheur était bien éphémère. La prière de ma famille commençait à faire de l'effet. La muraille que je m'étais érigée commençait à tomber si bien que pendant mes sorties nocturnes, je ne trouvais plus aucun plaisir. J'ai commencé par négliger mes amis, et partout où j'allais, je ne trouvais plus de motivation. Tout me dégoûtait. Malgré tout, dans mon raisonnement aveuglé, je croyais que je n'avais aucun besoin du pardon de Dieu. J'étais un gentil garçon. Jésus, s'il était mort sur la croix, c'était tout simplement parce que les hommes avaient été méchants, pas moi. Ça a été ma réponse quand on m'a parlé de la signification de la crucifixion pour la première fois. Pauvre de moi. Heureusement que je suis tombé sur quelqu'un qui était très patient et très persévérant, mon ami Ambroise. Le coup de grâce m'a été donné un jour où j'ai accompagné ma sœur à l'église, un dimanche matin, pour lui faire plaisir, parce que, à ce moment, j'étais logé chez elle. À plusieurs reprises, j'ai pu constater que la Bible n'était pas un livre, un simple livre d'éducation religieuse, mais il y avait dans ses messages quelque chose de plus qu'un enseignement, qu'une doctrine. J'ai réalisé vraiment que la Bible était la vérité, la parole de Dieu donnée aux hommes, et les messages que j'avais entendus ont réussi à me mettre en porte-à-faux dans mes raisonnements. Pour cette même raison, j'étais troublé et je suis devenu belliqueux, hargneux, irritable, désagréable même avec ma famille. Dans ma tête et dans mon cœur, c'était une bataille, des questions, beaucoup de questions, et souvent l'amertume dans l'âme. J'ai défié mon ami Ambroise par des propos incrédules, mais il avait la réponse à tout avec la Bible. Évidemment, je n'étais pas prêt de tout accepter. D'ailleurs, je ne comprenais pas tout non plus, mais je savais que c'était la vérité. Cette vérité travaillait, labourait, mon cœur rebelle, mais désormais en quête de vérité, parce que l'amour de Dieu avait agi en mon cœur sans que je puisse le réaliser. Ce jour-là, le pasteur, pendant le culte, n'a fait que parler de ma vie. Pendant un moment, je fus absorbé par la clarté du message à mon égard. Mais bientôt, estimant que c'était trop clair, vu les détails trop précis, la colère a envahi mon cœur. Et en arrivant à la maison, je m'apprêtais à passer un savon à ma sœur, en l'accusant de dévoiler ma vie privée au pasteur. Mais je savais au fond de moi qu'il y avait des choses dont on ne parle jamais à personne. Et là, j'ai dû me rendre à l'évidence que Dieu était plus près de moi que ce que je pourrais m'imaginer. Et ma frangine, par une parole de connaissance, a dû s'en apercevoir que j'avais avalé non seulement ma salive, mais aussi ma langue. Ça m'avait fait l'effet d'un toucher coulé. Je lui ai rien dit par orgueil, mais ce fut pour moi la douche froide. À partir de ce jour, j'ai commencé à envisager de me donner à Dieu, de chercher dans ses voies une vie nouvelle. Je fréquentais un peu plus souvent l'église, mais à la sortie, je devenais de plus en plus irritable. Un mal de tête épouvantable m'envahissait, et j'étais prêt à tout lâcher par découragement. On me parlait de l'onction, de la nouvelle naissance, de la joie d'être sauvé, d'une nouvelle vie avec Jésus. Tout ce que j'entendais remplissait mon âme d'espoir, d'ambition, de désir. Je voulais, mais rien. Rien ne venait pour moi. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que Dieu me connaissait, qu'il me voyait, et qu'il était plus proche de moi que ce que j'avais imaginé. J'ai quitté définitivement mes anciens amis, et j'ai fait un nouveau pas en me disant, si ça ne marche pas, si Dieu ne se manifeste pas, je serai moralement dans de mauvais draps. La panique m'envahissait, le doute et le scepticisme me disaient, lâche tout, ça c'est pas pour toi. Mais la question était là, pourquoi Dieu se donnerait-il la peine de me parler si c'était pour ensuite me lâcher? Non, je ne pouvais pas accepter cela. Et en plus, il y avait maintenant cette histoire de résurrection qui était devenue une réalité pour ma vie. Jésus était mort pour moi, pour mes péchés. Et cette chose qui envahissait tout mon être, que je n'arrivais pas à comprendre pleinement, mais qui parlait avec tant de clarté à mon cœur. Un jour, je me suis levé et j'avais dans mon cœur un fardeau. Une idée persistante qui me disait, prends 50 francs, il va le mettre dans la boîte à lettres de telle personne. Je me bats contre cette idée par tout un tas de raisonnements, essayant de me convaincre que c'était encore le fruit de mon imagination fertile. Finalement, vers 11 h du matin, je me suis décidé et je suis parti pour m'acquitter de cette obsession. J'ai déposé le billet de 50 francs et je suis parti le cœur joyeux et libéré d'un fardeau. Quelques jours plus tard, cette dame racontait son histoire à l'église, disant, je n'avais pas d'argent pour nourrir mes enfants. Je me suis mis à genoux et demandé à Dieu de me nous aider. Je suis descendu pour voir mon courrier et je trouve 50 francs. Et elle glorifiait le Seigneur d'avoir pourvu à ses besoins. Ce n'était pas ni le fruit de mon intellect, ni le pouvoir de quelques persuasifs commentaires humains. Non, parce que quand j'essayais de méditer sur mes moyens avec mon intelligence, tout partait en dérision. Oui, c'était bien l'œuvre de Dieu, sagesse de Dieu, folie pour ceux qui périssent. Plus tard, en traversant la ville, j'ai rencontré un ancien camarade de débauche qui m'a dit, ce soir on va à la foire d'exposition, viens donc avec nous, depuis le temps qu'on ne te voit pas. Je lui ai dit oui, et on s'est donné rendez-vous au bistrot habituel. Dans la journée, je vais voir mon grand ami chrétien, et je lui annonce la nouvelle, tout en lui demandant conseil, sachant déjà ce qu'il allait me dire. Vois-tu, me dit-il, la foire par elle-même ne constitue en rien un danger pour toi. Là où je vois le danger, c'est plutôt dans tes compagnies. Je dois te dire que je vois là un piège pour ton âme. Et maintenant, après tant de combats, si près du but, tu vas te laisser égarer par l'adversaire. C'est un vrai gâchis pour ta vie spirituelle. Il avait raison, une fois de plus, et je l'ai écouté. J'ai suivi donc son bon conseil, et j'ai renoncé à mon rendez-vous. Ma petite notion des choses spirituelles commençait à faire de l'effet dans ma vie, et je commençais à réaliser que je pouvais distinguer la voix du Seigneur. Cette nuit même donc, de samedi à dimanche, j'ai fait un rêve. Je me suis vu accompagnant mes anciens amis à la foire. Là, on a rencontré quelqu'un que je connaissais à peine et que je n'avais jamais fréquenté. J'aimerais attirer votre attention sur le fait des détails que le Seigneur a permis sous cette histoire peu banale. Il nous invite à monter dans sa voiture, une Renault 15. Je me rappelle très bien encore que je me sentais mal à l'aise et je me reprochais le fait que je n'avais pas suivi le conseil de mon ami chrétien. On monte en voiture et on prend une petite route sinueuse qui menait à un petit patelin où on allait souvent faire la fête. Il roulait très vite. Juste avant un virage, il s'est mis à dépasser un petit camion. En face, arrive un autre véhicule et ce fut l'accident. J'ai fait un bond sur mon lit. Je me suis trouvé assis en me disant, je suis pas mort. Car pendant quelques secondes, je me suis senti hors de mon corps. Je me suis réveillé et j'ai réalisé que je venais de faire un cauchemar. L'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain dimanche, je suis allé au culte et j'ai raconté à mon ami ainsi qu'à ma frangine mon cauchemar. Je me rappelle très bien qu'Ambroise m'avait dit avec sérénité mais avec assurance, c'est un songe, sois attentif, le Seigneur veut te parler, il veut te dire quelque chose. J'ai pris ces paroles avec un peu de scepticisme, un peu de légèreté, en haussant les épaules et en me disant à moi-même, n'importe quoi, ce cauchemar, ce n'est que le fruit de mon imagination. Le lendemain, j'ai appris avec stupéfaction que l'accident avait eu lieu selon mon rêve, avec la voiture de cet individu que je connaissais à peine, et ils étaient tous les trois à l'hôpital. Je me suis déplacé pour aller les visiter à l'hôpital, où j'ai essayé de leur rendre témoignage en racontant mon songe. Peine perdue, ils se sont moqués de moi. Je les ai revus que bien des années plus tard. Ce fut bien sûr une expérience déterminante dans ma vie avec Dieu. 1976, un bon matin, peu de temps après cette histoire, je me suis levé un peu bizarre. Je n'avais pas d'énervement, pas d'irritation, pas d'excitation, même pas ce besoin impérieux de sortir de chez moi. J'habitais en ce moment dans une petite chambre meublée. Je me sentais bien. Une paix qui m'était inconnue m'envahissait. Le temps ne comptait pas pour moi. J'ai ouvert ma Bible et je me suis mis à genoux devant mon lit. Je ne me rappelle pas le passage que j'ai lu. Peut-être quelques psaumes, certainement. C'était ma lecture préférée. Mais je me rappelle que j'ai pleuré avec une profonde conviction de péché. Je me rappelle aussi que j'ai vu le film de ma vie se dérouler devant mes yeux fermés. Je me rappelle que j'ai senti pour la première fois le Seigneur tout près de moi. Son pardon, sa paix, sa présence si réelle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, abasourdi, par tant de surprises. Tant de bonheur, comment expliquer le pardon? On ne peut que le vivre. Et c'est ça qui a changé ma vie.